hear about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Marie-Josée Sirach et René Solis se font face à notre affiche argument 2 et mise en scène. Pascal Rambert au T2G à Gennevilliers et Les derniers jours de l'humanité de Karl Kraus, mise en scène par David Lescaut, c'est au Vieux Colombier. Je passerai en fin d'émission un coup de fil à la metteur en scène Lucie Berelovitch pour sa mise en scène d'Antigone, d'après Sophocle et Brecht. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des DVD du merveilleux Cemetery of Splendor d'Apichette Pong Veracetacool, distribué par Pyramide. Enfin, nous avons rendez-vous avec le cinéaste et comédien Bouly Lanners, qui est toute cette semaine l'invité de La Dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Pascal Rambert. Après le grand succès de Clôture de l'amour et le quatuor de répétition, le patron du T2G revient en face à face d'un couple qui se déchire, mais avec un témoin, presque muet, leur jeune enfant. Ce sont Marie-Sophie Ferdan et Laurent Poitrenaud qui incarnent Annabelle et Louis.
Voyez-vous, vous les laissez taire, comme l'oiseau. Jamais vous ne l'aurez affermi. Toujours, vos paroles, à son endroit, vous leur donnez cet aspect débile, sans force, un corps d'oiseau.
Taisez-vous. Vous élevez tout à coup de cravache. Si vous pouviez redresser le dos de vos ouvriers devant ma navette à coup de cravache, vous le feriez. Mais le monde change, mon bon ami. Vos ouvriers ne se laissent plus faire. Ils ont couru vers Paris. Sont précipités vers Paris, vos propres ouvriers que vous appelez gueux, vos ouvriers.
Je ne suis pas sur la lande à minuit trempé devant ma femme en cheveux pour recevoir des leçons de politique moderne. Êtes-vous devenu socialiste? Dites-le que je ris.
Dites-le que je ris. Vous moquez-vous? Dites-le que je ris. Ces paroles, ce ton montre l'intérieur de votre crâne. Et comme ces chaises à porteurs de l'ancien régime ressorties des musées par la restauration, tout cela tombe en poussière.
Oh!
Comme vous m'aurez déçu.
Oh!
Vous tombez en poussière.
Vous vous trompez. Ce qui supposément vous met en furie vous fait être ivre. Je coupe une crise, une autre apparaît. Prouve que je suis vert.
Comment osez-vous proférer de telles paroles? Vous trouvez drôle de me jeter de l'acide au fond des yeux?
René Solis, pour commencer sur cet argument écrit et mis en scène par Pascal Rambert.
Bon, c'est un spectacle complètement improbable, on pourrait presque dire ni fait ni à faire, et pourtant Pascal Rambert le fait et il en fait quelque chose. Donc, on peut pas dire qu'il prend pas des risques parce que donc depuis toujours ses débuts, c'est un metteur en scène qui écrit, hein, il a toujours mis en scène ses propres textes. Il avait trouvé une espèce de martingale gagnante formidable avec Clôture de l'amour, la pièce créée en 2011 au Festival d'Avignon, qui était donc une scène de ménage d'une violence assez remarquable, interprétée par deux acteurs, et qui était totalement, qui jouait avec le réel, c'est-à-dire que les acteurs Les personnages portaient les noms des acteurs.
Audrey Bonnet, Stanislas Nordet.
Et il y avait, on pouvait pressentir qu'il y avait beaucoup de choses comme ça de vécu,
une part
autobiographique.
Non seulement de l'auteur, mais peut-être de ses interprètes.
Et donc il y avait tout un jeu comme ça entre le théâtre et le réel. Et c'était délibérément aussi d'actualité. Il y avait aussi déjà, vous avez parlé de l'enfant témoin.
Personne.
Il y avait aussi des enfants témoins dans Clôture de l'amour.
À la mi-temps.
Absolument.
Rappeler qu'il y avait un monologue d'une heure de l'homme, un monologue d'une heure ou un peu moins de la femme, et entre les deux, une chorale d'enfants chantait une chanson d'Alain Bachung. Voilà.
Et c'était donc une espèce de match de boxe, de combat à mort, hein, entre un homme et une femme en train de se séparer qui réglaient et vidaient leur sac. Et c'était plutôt, c'était assez prenant et d'une grande agilité. Alors, il refait le coup, il refait pas du tout le coup en même temps. Il refait le coup de la scène de ménage et des deux acteurs. Et en même temps, il projette ça dans quelque chose de totalement improbable, qui est un 19e siècle. Donc c'est un personnage, ça se passe dans les années 1870, d'un industriel, un commerçant en étoffe en fait, et sa femme, et le lieu de leur affrontement, de leur scène de ménage, et a aussi un lieu totalement improbable, c'est une espèce de rêve ou de cauchemar sur une lande, de nuit, comme ça, avec une atmosphère complètement de brouillard, de pluie.
De falaise, oui.
On pourra trouver des allusions au Roi Lear. Mais il y a surtout une atmosphère comme ça, accentuée par le décor de Daniel Giannotto, quasi gothique. Et puis, ces gens qui, en costume d'époque, et dans une langue qui cite pas mal le 19e siècle, se déchirent. Et c'est presque... on se demande, mais quelle est la nécessité de cette chose? Pourquoi est-ce qu'il veut passer par le 19e siècle? À quoi ça sert? Et puis, quel est l'enjeu réel de ce face-à-face? Alors, il y a un enjeu de couple, un rapport sadomasochiste entre les deux, mais il y a aussi un enjeu politique, une histoire de lutte des classes, puisqu'il y a l'évocation du contexte politique de l'époque, de la commune de Paris. Lui est tout à fait réactionnaire, rétrograde, elle est socialiste, donc c'est aussi l'histoire d'une opposition, mais c'est aussi une histoire de totalement fantastique et impossible, puisque c'est aussi un règlement de compte entre un sadique et une revenante, parce qu'elle est morte à la fin, et on peut penser qu'elle est, finalement, ils sont peut-être morts tous les deux dès le début, et tout ça se passe dans une atmosphère complètement étrange qui est le pays des morts, avec l'enfant lui-même dont on sait jamais s'il est mort ou vivant, puisque à chaque fois il le tue, il revient, etc. Donc tout ça fait un mélange quand même très très bizarre, très très improbable. Et puis là-dessus, il y a la langue de Rambert, et comme toujours chez Rambert, il y a à la fois des choses tout à fait, des trouvailles, un goût comme ça de façon de pétrir les mots, un goût de la répétition, des allitérations qui de temps en temps fonctionnent très bien et de temps en temps tombent complètement à plat. Et donc tout ça fait une espèce de spectacle extrêmement curieux et au bout du compte, dont je suis sorti moi de certaines façons plutôt content, parce que je me suis dit mais quand même il va dans des endroits où personne n'irait et il a une façon d'y aller qui fait que oui, ça ressemble à rien d'autre qu'à lui-même, et en ce sens-là, à cause de cette singularité-là, on peut aimer Pascal Rambert.
Bon, Marie-Josée Sirach, dans le même exercice.
J'ai eu le sentiment d'entendre Clôture de l'amour au temps de la Commune. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des qualités d'écriture indéniables, de mise en scène, je ne parle même pas des acteurs qui sont magnifiques, mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette histoire, parce que finalement, et je trouve que ça ne marche pas trop, cette façon de poser en fond, en toile de fond politique, la Commune, avec des clivages très forts entre lui, qui évidemment conservateur, qui bride sa femme comme il bride ses ouvriers, qui a une vision extrêmement traditionnaliste de la société, donc du couple, enfin tout se répercute jusque dans l'intimité, et elle qui serait une femme survoltée, qui tournée vers l'avenir, le combat socialiste, bon. Bon, ok, chacun étant enfermé dans cette catégorie-là, à partir de là, la trame de fond historique, moi, me semble un prétexte pour déplacer le propos qui était un peu le même que dans Clôture de l'amour, et pour travailler une langue et qui, certes, effectivement, qui sonne extrêmement bien à beaucoup d'endroits. Elle est châtiée, elle est très documentée. Si on ne savait pas que c'est Rambert, parfois on pourrait se demander quel est cet auteur du 19e qu'on ne connaît pas. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment, on sent qu'il a bien étudié les écritures des auteurs du 19e. Mais voilà, après sur la commune, alors effectivement, il y a des flashs comme ça, mais chaque fois je trouve que ça vient, il y a un côté un peu artificiel dans ces raccords en permanence entre le fond historique, cette histoire de couple. Alors bon, évidemment, du coup moi j'ai compris ce que c'était, je me suis renseignée sur la toile de Barèges, parce que ça vient souvent, c'est vrai que c'est une très belle toile, on a des termes très techniques sur le métier du tissage, enfin voilà, il y a des tas de choses qui sont justes, et tout d'un coup, les mots quand même habillent les acteurs. Moi je trouve que les acteurs les portent extrêmement bien, que ce soit Laurent Poitrenaud ou Marie-Sophie Ferdinand, tous les deux dans ce face-à-face, dans ce Amman, dans ces rapports d'une violence extrêmement ambiguë, parce qu'effectivement il y a de la perversité, et en même temps on ne sait pas, il y a presque un côté sadomaso dans leur rapport, et les mots sont là comme et relancent la machine en permanence, voilà. Alors ensuite il y a la présence de ce petit enfant qui, effectivement, les enfants sont souvent là, ils sont au milieu, ils assistent, ils subissent, ils interviennent. Alors elle est troublante, la présence de cet enfant qui crie, qui pleure, qui hurle, bon voilà. Tout ça, moi, me laisse un petit... Voilà, je suis pas entrée peut-être autant que vous, René, je crois.
Alors moi, pas du tout. Alors comme ça, ça fera trois tonalités, on va dire. Moi, j'y allais vraiment aussi pour les deux comédiens à l'affiche qui me donnaient très envie de découvrir cette pièce. Mais alors pour moi, rien n'a fonctionné. À commencer par le début, ce qui est toujours problématique, les 10 premières minutes, parce qu'on a... Alors, c'était l'extrait qu'on a entendu d'ailleurs, je pense qu'il vient de ce passage-là, avec des effets sonores de tempête et de pluie qui tombent, et un moment comme ça, un peu de vocifération. Moi, je n'ai pas compris un mot de ce qu'il disait, ou presque, mais en fait, c'était pas vraiment mieux par la suite, parce que ce que j'ai entendu une préciosité qui m'a, durant tout le spectacle, paru assez vaine, assez fausse, avec des effets de répétition qui, pour moi, ne fonctionnent pas vraiment, comme le fait de supprimer tous les pas dans les phrases négatives. Bon, alors je pourrais dire « argument, ça ne marche ». Voilà, mais ça on l'a 50 fois, comme l'expression qu'on a d'ailleurs entendu dans l'extrait, parce qu'elle est tout le temps dans le spectacle, de parler des femmes en cheveux, puisque effectivement, quand on ne sortait pas coiffé, c'était pas tout à fait digne pour une femme, en tout cas de cette condition à ce moment-là, donc on l'entend 30 fois dans le spectacle, comme l'enfant Ignace, qui est toujours désigné comme l'enfant Ignace. Enfin voilà, tout ça me semble être quand même des tics, une certaine complaisance dans l'écriture de Pascal Rambert, et idem pour les énumérations, les listes, alors qui s'écrivent en ouvrant le dictionnaire, enfin qui apportent quand même pas grand-chose dans leur succession, en tout cas pour moi. Et on l'a pas cité, mais les passages enregistrés par Denis Podalydès qui ponctuent le spectacle dans un noir complet sont les rares moments où j'ai entendu quelque chose, parce que c'est pas tout à fait le même registre de langage, on est quand même dans une narration qui est quand même moins... avec moins d'affêterie, et donc là à ce moment-là, bon, j'étais à la radio puisqu'on est dans le noir complet, et que Denis Podalydès, on en reparlera tout à l'heure, c'est quand même pas tout à fait rien comme comédien, mais voilà, comme vous Marie-Josée, le propos sur le fond ne m'a pas passionné non plus, sans trop dévoiler non plus, il y a une adresse à la fin faite par la femme, Annabelle, aux filles du futur, et alors là vraiment les bras m'en sont tombés quand même, parce que dire dans 100 ans vous serez l'égal des hommes, si le texte datait de la fin du 19e, on pourra trouver ça formidable effectivement, mais faire une prophétie écrite en 2016, moi je pensais plutôt à Mel Bent, Le Point Levé, mais c'était pas, je trouvais ça quand même un peu gonflé d'écrire un personnage de femme en 2016 qui prédit l'émancipation des femmes. Enfin, je n'ai pas compris. Alors, René Solis, qui a plus bienveillance, va m'expliquer.
Moi, je disais que c'était ni fait ni à faire. Si vous décortiquez les choses quand vous le
un
faites,
petit peu.
Vous avez raison.
On est là pour ça.
Vous avez raison. C'est pas bon du tout.
D'accord, bon.
Je veux dire, même ce texte, je veux dire, il y a comme ça de temps en temps des fulgurances, mais il y a aussi des choses qui retombent complètement à plat, qui sont insupportables, qui sont ridicules. On est bien d'accord. Mais ça a toujours été comme ça chez Rambert. Je veux dire,
Clôture de l'amour m'avait saisi à la première vision.
Oui, Clôture de l'amour, la deuxième. Moi, j'étais certain de penser que c'était un texte fondamental. Mais en même temps, pour revenir à un mot sur ces acteurs, il y a quelque chose qui dit Rambert sur ces acteurs et qui m'intéresse et que je retrouve dans le spectacle. En gros, il dit, j'ai écrit ça en pensant au corps des acteurs, c'est-à-dire au corps de Laurent Poitrenau et de Marie-Sophie Ferdinand, qui sont effectivement, qui ont une présence physique complètement singulière là aussi. C'est-à-dire que ils ont une façon de bouger, d'être sur scène, qui est Poitrenau, c'est un formidable acteur qui est aussi un formidable danseur d'une certaine façon. C'est un acteur qui danse. Pour moi, j'ai toujours vu comme ça. C'est un acteur qui danse sur un tout petit espace. et qui est une espèce d'expressivité du corps complètement incroyable parce que il est capable d'avoir des choses à moitié désarticulées, d'avoir des tombées d'épaules, d'avoir des gestes très lents, d'avoir des choses qui sont comme ça, incroyablement à la fois travaillées et qui ressemblent à rien d'autre. Qui sont tout près de la danse, et ça il l'a fait dans un certain nombre de spectacles mémorables, et il le refait encore. Alors il dit que c'est un corps, que le corps de Poitrenau, Rambert dit que c'est un corps qui lui évoque le 19e siècle. Alors je sais pas très bien ce que ça veut dire, en même temps j'ai l'impression qu'il y a là une intuition de quelque chose, enfin que comment dire, c'est comme ce que je sauve chez Rambert, c'est cette finalement ce don de naïveté que vous avez tendance, que vous avez raison
De questionner,
bien sûr.
Je questionne la naïveté de Pascal Rambert.
On peut bien sûr le faire. Mais en même temps, il y a quelque chose là-dedans, d'une espèce d'élan, de souffle de quelque chose qu'il a toujours eu et qui a toujours été comme une espèce à la frontière entre l'imposture et le talent. Je veux dire, il est sur cette crête-là depuis toujours. Il y a des fois où ça retombe assez nettement du côté de l'imposture. Et là, de nouveau, on est sur cette chose où ça bascule d'un côté de l'autre, et on peut très bien, moi ça ne me gêne pas du tout que des gens en sortent, et je les comprends très bien en disant c'est complètement nul, c'est ridicule, c'est absurde, etc. Et en même temps, je trouve moi que dans cet absurde, dans cette naïveté, dans ce ridicule, et dans cette absence totale de limites finalement, il y a quelque chose que moi, une voix singulière que j'entends et que j'ai envie de défendre.
Mais dans cette scénographie-là, dans ces lumières-là, dans cette bande sonore-là, qui convoque, vous l'avez dit, aussi bien le gothique anglais, victorien, que le romantisme allemand, pour aller vite. Ben là, je trouve que le texte manque sérieusement d'ampleur et de souffle. Et c'est peut-être là qu'il y a un hiatus aussi. Voilà, répétition, dans un gymnase, on est dans un décor extrêmement neutre et on est dans une frontalité. Voilà, on retrouve les diagonales du couple alors qui s'interchangent. Mais pour moi, c'est pas comme Marie-Josée Sirach, une impression déjà vue, mais l'impression de... on veut refaire la même chose, mais on veut faire plus, et je trouve que c'est beaucoup moins. Marie-Josée Sirach.
Oui, peut-être l'idée, peut-être que le souffle s'essouffle, en tout cas, on retombe. Alors, je sais pas, vous parlez de naïveté. En tout cas, je reconnais une obsession, c'est le couple. Et l'échec du couple, et ça c'est en permanence.
Oui,
et donc il y a clôture de là, mais il y a aussi répétition quand même.
Il n'est pas tout à fait le seul non plus.
Non, mais lui c'est vraiment obsessionnel. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment.
À des pièces d'il y a 20 ans hein, aussi.
J'ai le sentiment que c'est ça. Vraiment la trame,
et
qu'il creuse ça, qu'il creuse en permanence cette problématique-là. Donc, bon, en même temps, on en a peut-être vite, au bout d'un moment, on a l'impression d'en avoir fait le tour, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Mais bon, voilà. Mais après, oui, sur les acteurs, moi, je les trouve... ils sont courageux, parce que quand même, pour porter parfois un texte qui, effectivement, se perd, se noie, il y a la pluie en permanence. Je ne sais pas comment ils font pour tenir. Moi j'étais frigorifiée, j'avais froid pour eux. Je remettais mon manteau, mon écharpe. Et bon, en même temps, tout ça crée une atmosphère. C'est indéniable, il y a quelque chose. Bon, après, peut-être que moi, j'étais pas très en forme ce soir-là.
Mais... Non, mais on voit les spectacles, il faudrait les voir plusieurs fois avant d'en parler. On sait bien, c'est toujours le même problème. Mais je ne vais pas parler de l'enfant Ignace, mais j'ai cru au début que c'était un mannequin comme c'est en faire très bien Gisèle Vienne. Je pense que ça aurait gagné à en être un. Je ne mets pas du tout, évidemment, les enfants qui jouent en cause, mais sa participation sonore, gestuelle, de tomber, un peu compliquée et un peu ratée pour... pour ce qui me concerne. Bref, si on veut se reporter au texte d'Argument, on le trouvera aux éditions des Solitaires Intempestifs. Pour aller voir Argument, mis en scène par Pascal Rambert, c'est au théâtre de Gennevilliers jusqu'au 13 février.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et avant de parler de Karl Kraus et David Lescot, nous retrouverons l'invité de la dispute, le comédien et cinéaste Bully Lanners. Mais le premier à faire une revue 13 culturelle quotidienne, c'est Antoine Guillot. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Il y a plusieurs façons de ne pas faire de théâtre. La première, c'est de renoncer de soi-même. Le spectacle Le Bateau Ivre, Les Poissons détestent les vendredis, dans lequel Jean-Louis Trintignant, Jacques Bonafé et Denis Podalydès, puisqu'on parlait de lui, également metteur en scène, devait converser à trois voix sur les mots d'Arthur Rimbaud, est annulé. Nous apprend La Croix ce matin. Le comédien de 85 ans était trop fatigué pour entamer cette tournée à Chartres le 30 mars prochain, jusqu'à la cour d'honneur du Palais des Papes au Festival d'Avignon cet été. Une autre bonne façon de ne pas faire de théâtre, toujours très efficace, c'est de se faire censurer. En Turquie, nous apprend ainsi Le Monde, la censure d'État intervient désormais jusque dans les moindres détails dès lors qu'il s'agit de l'image publique du président Erdogan. C'est ainsi que début décembre 2015, comme l'a révélé le 16 janvier le journal turc en langue anglaise Today's Zaman, la direction de l'éducation du district de Çankaya à Ankara, a interdit une pièce de théâtre pour enfants, mais pièce d'échecs consacrée aux figures du jeu. Le motif invoqué, l'une des chansons proposait un contenu inapproprié. C'est celle qui fait dire au roi de l'échiquier « Ceci est mon palais et je peux faire ce que je veux ». L'auteur du texte, Serap Gültekin, a mis en scène cette création des dizaines de fois dans des écoles primaires et secondaires depuis 14 ans. Selon lui, la direction de l'éducation craint que les élèves puissent confondre le roi et le président Erdogan. Or, comme celui-ci s'est installé en 2014 à Ankara, dans un somptueux et gigantesque palais présidentiel, ce qui avait soulevé de nombreuses critiques, il risque aussi d'interpréter la phrase comme une critique du chef de l'État. L'avocat de l'écrivain, Ahmet Tokoz, a déposé plainte contre cette interdiction. Il a déclaré au journal turc Radical que lui et son client étaient profondément déçus, ajoutant « Dans une période où nous espérons une constitution plus démocratique et promouvant la liberté, une œuvre d'art a tout simplement été interdite parce qu'elle est considérée comme gênante. » Mais le must, évidemment, pour ne pas jouer, c'est de se faire couper les vivres. Prenez juste un peu plus à l'ouest la Grèce. En 2008, raconte Eve Beauvallet dans Libération, les coupes budgétaires ont laissé sur le carreau 90% des acteurs du spectacle vivant. Une baisse de 65% du budget entre 2010 et 2013. Un budget de la culture de 12 millions d'euros. À l'heure actuelle, un des plus faibles de l'Union européenne. La visibilité sur le marché national et international dépend de la capacité à jouer des dernières cartes institutionnelles, sans compter le soutien des structures étrangères. En France, le festival Reims Scène d'Europe ou le nouveau théâtre de Montreuil. Les seuls interlocuteurs à citer sont les deux théâtres nationaux, le festival de Kalamata, la fondation Onassis, premier appui des artistes contemporains et courroie de transmission vers la diffusion internationale, et le festival d'Athènes et d'Épidaure, place forte du théâtre et de la danse, mobilisant chaque année 250 000 spectateurs. Mais l'inquiétude monte depuis l'annonce du limogeage de son directeur Yorgos Loukos. Hors institution, le théâtre tient comme il peut, plus structuré que la danse et les arts visuels, une tradition dramatique ancestrale, une fréquentation stable malgré la crise, des acteurs en surnombre, beaucoup étant revenus sur les plateaux après la fermeture de l'ERT, la radio-télévision publique en 2013. Il y a 145 théâtres à Athènes, mais la plupart des acteurs jouent à la recette et il faut environ 6 mois pour éponger les frais de production, explique Christiana Galanopoulou, dramaturge pour la compagnie Vassistas et directrice du MIR Festival. On peut encore survivre avec le théâtre, mais pas avec la danse, qui ne reste jamais autant à l'affiche. L'alternative revient à produire des spectacles en chaîne ou à partager des espaces de travail, à réinventer à la débrouille d'autres modes de production et à cumuler des boulots. Résultat, en Grèce, on a beaucoup d'activités, mais peu de productions suffisamment solides pour intéresser le marché international. Entre underground des institutions, pas d'intermédiaire. Dimitris Papa Bayou à nous, sorte de Robert Wilson grec, récemment passé par le Théâtre de la Ville à Paris, ne manque d'ailleurs pas de rappeler que les organisateurs des JO d'Athènes, il en a chorégraphié la cérémonie d'ouverture en 2004, sont venus le chercher dans le squat qu'il occupait alors. Et si aujourd'hui les bouts de ficelle ne sont plus son affaire, d'autres artistes repérés continuent de jongler avec différents contextes de production. Des compagnies aussi visibles à l'international que le Blitz Theater Group ou le Vasistas Theater Group peuvent être soutenues institutionnellement une année et retournées celle d'après dans l'underground, précise Christiana Galanopoulou. C'est dur, mais paradoxalement, il y a une effervescence que les gens nous envient, car la communauté artistique ici est très soudée. C'est pour chercher cette fluidité entre espace laboratoire et production institutionnelle que Lenio Kaklea, chorégraphe grec aujourd'hui installé en France, a accepté, sur invitation du Quartz Scène Nationale de Brest, d'organiser du 1er au 5 mars, en tant que curatrice invitée, un focus subjectif sur la création grecque dans la programmation du festival Dance Fabric. Elle présentera ainsi des artistes locaux, comme les chorégraphes Iris Karayan ou Mariella Nestora, mais aussi des figures de la diaspora, comme elle-même, ou la gréco-suisse Alexandra Bagzetsis, installée à Athènes depuis 2 ans. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment on construit politiquement depuis la périphérie, précise Lenio Kaklea, en marge de l'institution, dans la banlieue de l'Europe. N'attendez pas de sa part un panorama de la création grecque la plus besante, prévient Libération. Son projet de faire passer à Brest quelque chose de l'effervescence athénienne actuelle, expliquer les modes de production indépendants, tisser des liens, prendre conscience que les conditions là-bas sont certes difficiles, mais qu'en France pointe aussi une autre forme de violence, des institutions menacées, une injonction à la production. Je suis très attachée au système français, dit-elle, mais en ce moment, à Athènes, on crée différemment parce qu'il y a moins à perdre. Alors la Grèce, avenir de la France.
Oui, René Solis.
Oui, non, un mot sur le théâtre grec et sur le... effectivement, il y avait eu au festival d'Avignon 2014 une programmation grecque qui était extrêmement intéressante avec plusieurs jeunes auteurs et metteurs en scène.
Olivier Pie avait déjà fait au théâtre de l'Odéon, oui, par Belle.
Et Olivier Pie avait grec. C'était aussi intéressé au théâtre grec. Donc il y a effectivement une vie théâtrale très intense à Athènes, alors même que les conditions sont extrêmement difficiles. Et la deuxième chose, je ne connais pas les détails du départ de Yorgos Lokos de la direction du théâtre du festival d'Athènes et d'Épidaure, mais a priori c'est plutôt une très mauvaise nouvelle, parce que c'est quelqu'un qui a su formidablement maintenir ce festival comme un événement majeur du théâtre européen, et en même temps en l'ouvrant largement à des jeunes créateurs grecs. Donc voilà, je ne sais pas quel est son successeur, ni quelles sont les raisons exactes de son départ, mais ce n'est pas une bonne nouvelle.
Vous connaissez le théâtre grec, Marie-Josée Sirache ?
Non, très peu, très mal. Je dirais juste, en écoutant la revue de presse d'Antoine, 12 millions d'euros, le budget de la culture, bon...
En Grèce, oui.
En Grèce, bon, je pense que ça dit beaucoup de choses. Ouais. Et ça explique effectivement non seulement les difficultés, en même temps l'énergie qu'on entend, mais c'est le système des... quoi. C'est...
Oui, enfin, il faut quand même dire que les fondations privées mettent aussi pas mal d'argent. Donc, d'une certaine façon, c'est pas... Je veux dire, il y a quand même une... Je sais pas combien met la fondation Onassis, mais c'est quand même beaucoup, oui.
Ouais, bon. S'il y a d'autres faits marquants dans le monde du théâtre cette semaine que vous vouliez évoquer l'un ou l'autre avant d'avancer dans cette émission, non, rien qui vous ait absolument frappé, Marie-Josée Sirache, René Solis? Ah, si vous êtes en train de chercher, vous avez un petit sourire, René.
Demandez ce que j'oublie quelque chose.
Je sais pas, qui va diriger la colline ou des choses comme ça, non?
Tout ça, c'est spéculation.
Mais oui, les annonces seront faites en temps et en heure. Enfin, Stéphane Brunschweig est à l'Odéon. Voilà, il a pris possession des lieux, si je puis dire. Et voilà, il travaille d'arrache-pied pour l'avoir croisé ce samedi à l'occasion de la scène imaginaire de Richard Peduzzi que nous y avons enregistrée. Ça, c'est une autre histoire. La scène imaginaire de Richard Peduzzi sera diffusée dimanche 14 février. Voilà, je le dis parce que c'était un beau moment avec les gens qu'il avait réunis autour de lui. Dans quelques minutes, nous nous intéresserons aux derniers jours de l'humanité, d'après Karl Kraus, mise en scène de David Lescaut au Théâtre du Vieux Colombier. Avant cela, on va retrouver l'invité de la dispute. Cette semaine, nous allons la passer avec le comédien et cinéaste Bouly Lanners, dont vous pouvez retrouver l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanteur, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ?
Bouly Lanners, on va passer cette semaine avec vous, ce qui me réjouis personnellement. On commence, nous, le lundi soir, par le spectacle vivant, donc entendu au sens large, théâtre, cinéma, cirque, art de la scène. Vous avez, vous, des expériences de plateau de théâtre, de jeux sur des scènes ?
Très peu, parce que je n'ai pas suivi de formation de comédien, donc je n'étais pas a priori destiné à faire de la scène, et le théâtre me fait très peur. Voilà, ce contact direct avec le public me fait très peur. Mais mon épouse est metteur en scène au théâtre, et mon beau-père est marionnettiste. Donc voilà, j'étais habitué à aller voir des spectacles depuis toujours. Et j'accompagne mon épouse quand elle fait un spectacle, mais j'ai peur quand elle fait un spectacle aussi. Donc, j'ai tendance à m'asseoir quand je vais voir un spectacle, plutôt sur le bord des gradins pour être sûr de pouvoir partir si jamais la fuite était nécessaire.
Alors c'est vrai que nous en France, nous sommes très friands de ce qui vient de Belgique concernant et le théâtre et la danse, que ce soit les Degestan, ou que ce soit Alain Platel, ou que ce soit Anne-Thérèse de Kersmaeker. Enfin bon, les listes sont très très longues, de Kika Sirs, enfin, de gens que nous apprécions beaucoup. Il semble que votre pays est un lieu important de cette émergence-là. Est-ce que vous êtes attentif à ce qui se fait en Belgique?
J'ai suivi de loin l'émergence de toute la danse contemporaine, de Thérèse de Kersmaeker à Michel Andemay, et puis les troupes de théâtre plus flamandes comme Stan, mais j'étais conscient qu'il y avait un vrai vivier, mais il y a aussi encore beaucoup de compagnies qui évoluent au sein de la Belgique sans s'expatrier et qui sont très valables aussi, notamment je pense à Transquinquennale qui est une compagnie assez prolifique, et puis il y a beaucoup d'auteurs différents, il y a beaucoup de conservatoires aussi où les jeunes font des spectacles qui sont vraiment intéressants dès leur tout début.
Est-ce qu'il y a des gens que vous êtes allés repérer sur scène pour après partager des aventures de cinéma aussi ?
Oui, j'avais repéré des gens sur scène que, in fine, je n'ai pas pris dans mes films, mais j'ai été voir régulièrement les spectacles de Charlie de Gaulle, qui faisait une revue régulière dans laquelle il faisait travailler beaucoup de gens qui sortaient des conservatoires ou des écoles d'art dramatique. Donc on voyait là beaucoup de jeunes acteurs en devenir. Et j'en ai repéré quelques-uns qui sont devenus des acteurs connus, dont notamment Vincent Lécuyer, qui jouait déjà dans Ultra Nova.
Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais vous enseignez ou vous avez enseigné à l'INSAS, qui est lieu très important, alors pour le cinéma, mais aussi pour l'art dramatique. Là, il y a des passerelles, il y a des croisements?
Non, il y a très peu de passerelles malheureusement, mais elles commencent à se faire. C'est-à-dire qu'entre la partie de l'école qui s'occupe de la mise en scène et du jeu comédien et la partie qui s'occupe plus spécifiquement des métiers du cinéma et de la réalisation, il y a eu très peu de passerelles jusqu'à présent parce que l'idée était de ne pas mélanger les incompétences. C'est pas moi qui le dis, mais c'était dans le cursus scolaire.
C'est bien.
Voilà. Donc je pense qu'on est en train de passer à autre chose maintenant parce qu'on a besoin fondamentalement les uns les autres et que les metteurs en scène ont besoin de pouvoir parler à des comédiens et savoir ce qu'est un comédien. Sinon, c'est sur le tard que ça vient et souvent il y a une gêne et donc cette relation elle est essentielle dans la mise en scène.
Et pour vous, Bolly Lenners, qu'est-ce qui vous ferait surmonter cette appréhension de la scène? Qu'est-ce qui vous ferait accepter un projet de théâtre? Est-ce que ce serait de monter un classique dont vous rêveriez? Est-ce que ce serait une rencontre humaine avec un metteur en scène? Qu'est-ce qui pourrait faire quand on vous voit sur un plateau de théâtre?
Bon, rien, je pense que
c'est fichu.
Non, mais j'ai rencontré mon épouse, c'était d'une lecture. Elle mettait en scène une lecture et on m'avait proposé de remplacer un comédien qui était pas disponible. Et donc, le fait d'avoir le texte me rassurait. Et puis, ça m'a permis de rencontrer mon épouse, Elisabeth Ancion, qui est metteur en scène. Donc, je n'en veux pas au théâtre.
au contraire.
Et récemment, au spectacle au Festival de l'Intime, donc qui est le festival de lecture organisé par Benoît Poulvord, j'ai fait l'ouverture du festival avec un livre. Donc c'est un exercice quand même, c'est d'arriver sur scène dans un théâtre qui est rempli, avec les balcons remplis, un théâtre à l'italienne, et d'arriver juste avec un livre, il y a une table, il n'y a pas de préambule, il n'y a rien, donc c'est un exercice fort, très fort, mais voilà, la lecture me suffit. Par contre j'ai pris beaucoup de plaisir à effectuer cette lecture, et je pense que je le referai.
C'était quel type de plaisir alors, physiquement?
Oui, c'était physiquement, bon évidemment le choix de la nouvelle n'était pas anodine, c'était un bouquin que j'avais lu, c'était un bouquin d'un auteur américain qui racontait des événements qui se sont passés pendant la guerre en Irak, donc c'était très dans une littérature très en langage parlé, donc c'était pas de la grande prose, mais c'était quelque chose qui me correspond mieux. Et donc du coup, j'étais le personnage mais je ne le jouais pas non plus, je n'y mettais pas de pathos, je racontais simplement l'histoire comme on raconte une histoire à un enfant, et c'était assez jouissif, parce que je sentais l'écoute, et effectivement je peux comprendre les gens qui aiment la scène. C'est que tout à coup de se retrouver avec 700 personnes, je crois que c'est un très grand théâtre, et de sentir cette écoute, ça vous porte.
Et est-ce que, comme spectateur, il vous arrive parfois d'aller, alors que ce soit à l'opéra ou au cirque, ou voir des représentations un peu différentes des classiques, enfin des classiques du théâtre et de la danse?
Ma femme m'y oblige.
Parce décidément.
Elle est vraiment, ben elle adore le théâtre, elle est née, c'est son père qui était marionnettiste, elle est vraiment née, c'est l'enfant de la balle, donc elle est vraiment née là-dedans, et parfois elle me dit, écoute, ça, viens le voir. Et donc, je me laisse aller et je découvre des choses vers lesquelles je n'aurais peut-être pas été, parce que ça ne fait pas partie de ma culture au départ, donc j'ai plutôt une réticence à aller voir, j'ai toujours peur de m'emmerder au théâtre. Mais donc, voilà, elle m'a fait découvrir des choses formidables. Voilà.
Un plaisir récent ou en mémoire que vous avez, Boulina Ners, de spectacle?
Un seul en scène de Vincent Lécuyer, mise en scène par Anne-Cécile Van Dalem, très beau spectacle dont j'ai oublié le titre, qui est sorti il y a quelques mois, c'était très très beau.
Bon, à suivre alors pour vous voir peut-être sur une scène, on ne sait jamais, hein, peut-être que votre femme réussira à vous mettre en scène.
Ouais, ça serait bizarre ça quand même. Je pense qu'on porterait tous les deux une espèce d'angoisse qui fait que ça ne ferait pas du bien au couple.
Bon, alors ne le souhaitons pas alors. Et nous poursuivons cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant. Nous rendons au Vieux Colombier, l'une des trois salles de la Comédie Française, pour parler des derniers jours de l'humanité, d'après Karl Kraus, dans une traduction de Jean-Louis Besson et Heinz Schwarzinger. C'est une mise en scène de David Lescaut. Cette pièce de théâtre, rédigée pendant la Première Guerre mondiale par l'auteur viennois, était censée durer 24 heures. Elle compte 220 scènes, 50 pièces musicales, 500 personnages. Réduction ici, avec quatre comédiens et un pianiste en 1h50 pour raconter en de multiples scénettes le quotidien, alors absurde, terrible, drôlatique, violent, de cette grande guerre à Vienne. Je lis le début de la préface de Karl Kraus, la préface à cette pièce, Dernier jour de l'humanité. Ce drame c'est marqué en majuscule, hein. Ce drame dont la représentation mesurée en temps terrestre s'étendrait sur une dizaine de soirées est conçu pour un théâtre martien. Les spectateurs de ce monde-ci n'y résisteraient pas, car il est fait du sang de leur sang et son contenu est arraché à ces années irréelles, impensables, inimaginables pour un esprit éveillé, inaccessible aux souvenirs et conservé seulement dans un rêve sanglant, années durant lesquelles des personnages d'opérette ont joué la tragédie de l'humanité.
Tout ce que je puis vous dire, chère Madame Van Schaaf, c'est que chez nous, en Autriche, la tombe du soldat au foyer a connu une très large diffusion et que tout le monde est enthousiaste.
Ça ne concernait que les morts. Maintenant, mon mari a imaginé le coussin du héros. C'est un cadeau magnifique destiné aux soldats au retour du front pour qu'ils se reposent de leurs exploits.
Alors, quelles sont les nouveautés chez vous dans le Reich, dans le domaine du livre et du jeu d'enfants?
Nous jouons à la guerre mondiale.
Comment?
Nous jouons à la guerre mondiale. Un livre d'images d'actualité destiné aux petits.
Ah!
Et alors, en ce qui concerne le jeu à proprement parler, vous connaissez la distribution du butin.
Oui, mais chez nous, on n'en est pas très content. Je ne sais pas du tout à quoi ça tient en Autriche.
Ah ben, chez nous, en Allemagne, c'est un jeu qui nous ravit. Mes gosses en sont fous.
Ah, chez nous, par contre, nous avons Mororus, formidable.
Oh, ça doit être chouette.
Mororus est une invention judicieuse de la comtesse Staff, un jeu de patience très intéressant pour grands et petits. Le produit a été fabriqué par les blessés de l'hôpital de la Croix-Rouge sur le petit côté de Prague où la comtesse accomplit un véritable sacerdoce samaritaine en tant qu'infirmière en chef. À l'intérieur d'un œuf de Pâques décoré avec goût apparaissent une forteresse avec forteresse miniature avec barbelés et marécages ainsi que des alliés et russes. En agitant l'œuf, les alliés doivent s'engouffrer dans la forteresse et les marécages dans et les russes dans le marécage.
Bien fait.
L'œuf de Pâques, Mororus, décoré avec goût dans la soie noire et or, coûte 3,50 € et se trouve à la centrale d'achat du bureau d'aide aux victimes de guerre.
Voilà, une des tonalités de cette pièce, Les derniers jours de l'humanité, un titre qui n'a rien à voir avec votre journal, hein, Marie-Joëlle Sirage, qu'on rassure nos auditeurs et auditrices. Pour autant, votre avis sur ce spectacle?
Moi, j'étais totalement enthousiaste devant ce spectacle. D'abord, j'ai découvert un auteur. Je ne le connaissais pas, mais je suis heureuse de l'avoir rencontré. Cet auteur viennois, qui écrit ce livre comme une pièce montée, un collage avec une accumulation de il se documente, c'est écrit à partir de coupures de presse, de communiqués officiels, de micro-trottoirs, de brefs de comptoir, enfin, tout ça est tellement bouillonnant, tellement enthousiasmant, et c'est une longue chronique de la guerre, de 14 à 18, qu'il écrit avant même la fin de la guerre, si j'ai bien compris, mais peu importe, parce que il est totalement visionnaire, c'est-à-dire qu'il anticipe, et on voit bien que cet empire, enfin, que l'Autriche est un pays qui va partir à la dérive. Et je trouve ça extrêmement... c'est une écriture, elle est féroce, elle est cruelle, elle est très drôle. Il y a cette multiplicité de personnages font qu'on a une diversité d'approches, et cette façon de parler de la guerre, non pas au front, mais à l'arrière du front, avec des femmes, des bonnes femmes, des hommes qui vont, qui viennent. Enfin, bon, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai été vraiment enthousiasmée par le texte, et puis la mise en scène de David Lescot, parce que effectivement en 1h50 il parvient à rendre compte de cet ouvrage avec cette même joie contagieuse, avec ce même élan, avec ce même bonheur. C'est servi par des acteurs magnifiques. Là, on entendait Podalydès grimer en bonne femme. Pendant la guerre, les affaires continuent. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui disent le patriotisme exacerbé, et puis le nationalisme, on part tous à la guerre, des enfants dans les squares jusqu'aux vieillards, tout le monde est mobilisé. Et puis tout ça fait que moi je suis ressortie de là extrêmement heureuse et contente d'avoir partagé un petit moment comme ça.
Ah bah c'est bien. On a entendu aussi Sylvia Berger dans l'extrait. Pauline, ouais. Clément et Bruno Raphaël y complètent la distribution, et c'est Damien Lehmann qui est au piano. René Solis.
Bon, on n'est pas vraiment d'accord. Moi, je suis sorti un peu, l'impression d'avoir un peu perdu du temps. Mais je trouve que c'est long. Enfin, c'est 1h50 qui dure long. Enfin, long. C'est des scénettes. Il y a des bons acteurs. C'est pas désagréable. Mais d'abord, oui, bien sûr que c'est un livre incroyable. Le livre de Cros, c'est un livre, une pièce immontable. On l'a dit. Donc là, c'est une espèce d'entreprise de réduction, mais complètement. En 1h50, quatre acteurs. Il y a un côté, pour moi. Faire la 9e de Beethoven à la flûte à bec, quoi. Il y a quelque chose qui est tellement disproportionné entre le foisonnement de l'œuvre et le résultat, qui est une suite de scénettes anecdotiques sur un ton le plus souvent celui de la comédie, qui m'a laissé complètement pantois. Je veux dire, je trouve ça mais d'une incroyablement vide de réflexion dramaturgique sur ce que c'est qu'un texte pareil. Et il y a vraiment comme une espèce, oui, alors c'est le journal de l'arrière, c'est drôle, il y a Podalydès qui fait ses numéros, il joue les trois officiers qui se retrouvent tout au long de la guerre, ce sont des personnages ridicules comme ça, c'est rigolo, mais je trouve ça incroyablement vide par rapport mettre cette mise en scène à côté de ce qu'est ce texte, la distance, elle est abyssale, quoi. Alors, il y a quelque chose quand même dans ce spectacle, je trouve, moi, très bien et très étrange. C'est la présence des images et, en fait, pas la présence des images en général, c'est-à-dire que il y a tout un travail d'archives, donc de projection de films pendant la guerre de 14, qui sont à la fois des films de bataille, des films tournés sur le front et des films tournés à l'arrière, et c'est tourné côté français. Alors ça, c'est pas gênant, c'est-à-dire que c'est la guerre racontée du côté de l'Allemagne et de l'Autriche, et les images qu'on voit, c'est la guerre du côté français. Il y a évidemment des effets miroirs sur la propagande, etc. Donc ça fonctionne, mais disons que c'est pas très intéressant non plus, sauf 5 minutes, qui sont à peu près les 5 dernières minutes du spectacle, où il y a en ballon le film d'une une promenade en ballon au-dessus d'un paysage et d'une cité totalement dévastée. Je ne sais pas quelle est cette ville. C'est une ville assez importante. Je pense, je sais pas si c'est une Amiens, mais je crois pas que ça a été à ce point abîmé pendant la guerre de 14. Et ce qu'il y a, c'est donc c'est silencieux, c'est des images tournées en ballon, en noir et blanc comme ça. Et c'est Hiroshima en 1918. C'est-à-dire qu'on se rend compte tout d'un coup de l'incroyable puissance dévastatrice de la guerre de 14. On le sait, mais là il y a tout d'un coup dans ces images que moi j'avais jamais vues quelque chose 5 minutes de totalement incroyable et qu'il a tout d'un coup redonne au spectacle ou au moment qu'on vient de passer une dimension tragique incroyable, une force incroyable. Mais c'est les seules 5 minutes de théâtre à la hauteur du livre que j'ai vu de toute la soirée.
Ouais, je pensais à Allemagne Zéro parce que c'est aussi,
oui.
Vu du ciel, si je peux dire, parce que là c'est effectivement assez terrible, parce qu'en plus les opérateurs sont souriants, parce qu'ils filment évidemment sans doute l'étendue des dégâts qu'ils ont infligés à l'ennemi. Aussi, on montre ce qu'on a fait à l'ennemi, j'imagine, sinon il n'y aurait pas des sourires pareils.
Enfin, c'est côté allemand,
on peut l'imaginer, mais je suppute seulement. Oui. Moi, je trouvais que c'était un spectacle plutôt étrange, mais ce qui est logique par rapport à l'adaptation d'un tel livre, dont vous disiez qu'il était, c'est ce que Karl Kraus assure, constitué uniquement de choses lues. Alors, ça, c'est vrai pour les articles de presse, les communiqués ou entendus. Hein, il dit que tout ce qui est retranscrit, l'a entendu dans les rues de Vienne. On voit bien que derrière la richesse des matériaux, il y a un auteur qui coud tout cela, comme. Svetlana Alexeyevitch, qui a eu le prix Nobel de littérature, comme Jean Hatzfeld, autrement aussi, peut le faire. Hein. Comment on coud ensemble des paroles, des témoignages, des bribes d'écrits pour en faire une œuvre. Alors, ce qui est compliqué, évidemment, pour David Lescaut, c'est de découdre pour recoudre autrement. Et donc, ça donne cet objet qui est parfois, non pas bancal, mais qui effectivement joue sur des registres vraiment très très délicats. Comment effectivement pouvoir être dans la gaudriole avec ces images-là en arrière-plan qui me ramènent pas seulement dans les scènes à la minute, mais très souvent à la violence, à l'horreur de la guerre. C'est l'historien Laurent Verret qui a fait ce montage, qui a choisi ces images d'archives qui servent tout au long du spectacle. Moi, j'étais pas convaincu, effectivement, quand j'ai vu les premières images sur l'écran miroir de cette scénographie, je me suis dit, oulala, est-ce qu'on est dans un livre d'illustration? Et en fait, je trouve que c'est bien plus fin que cela, et pas seulement dans les 5 dernières minutes. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des effets de résonance, et du coup, qui tempèrent quand même l'espèce de comique troupier, parce que c'est finalement d'époque, qui est engagée notamment par Denis Podalydès, mais par les autres. Alors, Denis Podalydès, dont on sait depuis longtemps qu'il est capable de tout jouer. Alors là, il nous le démontre une fois encore. Cette galerie de personnages est quand même assez impressionnante. Mais le spectacle, je pense, aurait dû, je ne sais pas comment dire ça, aurait dû davantage me bouleverser. Il m'a intéressé, il m'a fait rire, il m'a fait frissonner aussi d'horreur. Mais je ne suis pas sûr qu'il a imprimé en moi une marque très grande. Pour autant, je trouve que c'est du bon travail, ce qui est déjà beaucoup par les temps qui courent. Et donc, je ne boude pas mon plaisir, mais je suis un peu entre vous deux, là, Marie-Josée Sirache.
Non, moi, je l'ai vraiment pris comme un spectacle, un clin d'œil au musical, au comique troupier peut-être. En tout cas, qui raconte une époque. Je trouve que c'est assez intelligent. Moi, contrairement à vous, René, je trouve que franchement, un texte pareil, aussi important, aussi volumineux, et puis assumer un parti pris où évidemment il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Mais l'alternance, c'est du café-théâtre, c'est du musical, c'est du cinéma. C'est-à-dire que le théâtre, le plateau du théâtre se métamorphose à vue en permanence. Et je trouve ça extrêmement réussi. Il imprime un rythme, ça change sans arrêt, il n'y a pas de temps mort. Et ça dit, et on entend entre le rire, les slogans patriotiques dans les manifs, le dessin, le caricaturiste du journal du quotidien viennois que commente toujours de la même façon un des 4 copains. On entend cette Vienne.
On entend les chansons patriotiques les aussi, chansons alors françaises pour le coup, mais un leader de Berg
oui,
aussi.
Mais il y a des allers-retours en permanence, et cette guerre-là qui a été une horreur, effectivement, ça, on pense à Hiroshima, mais en même temps il y a le front, et puis il y a l'arrière, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens continuent à vivre, à un moment donné on voit des images d'usines, c'est-à-dire que les femmes allaient travailler, et donc Et les gens aussi avaient besoin de se distraire et de vivre. Et comment concilier l'inconciliable? C'est-à-dire, c'est, en même temps, la vie et la mort en permanence. Alors, à un moment donné, on va voir défiler, on va voir les images de ces soldats blessés qui rentrent au front. Elles sont terribles. Voilà. Et puis, hop, un coup de manivelle. Et on repart, et voilà. Et moi, je trouve que l'équilibre est bon, qui c'est assez audacieux, que la partition musicale, elle est pas là pour juste nous faire quelques petites pauses et des petits clins d'œil. Elle est tout,
oui, elle est très
tout
fine,
fonctionne très bien là-dedans, c'est bien huilé, et les acteurs sont d'une présence extraordinaire, voilà. Et ils nous font du bien, c'est-à-dire qu'ils nous parlent de quelque chose de grave, quelque chose qui peut avoir des résonances aujourd'hui aussi. On peut prendre Alep aujourd'hui, je pense que ça peut ressembler aux images qu'on voit à la fin de la pièce. Et il y a la vie quand même qui continue, et voilà. Et il y a des enfants au parc, et les mamans qui parlent des chansons patriotiques qu'elles apprennent à leurs gamins. Enfin voilà.
Et on veut pas voir les estropiés.
Et on veut pas voir les estropiés. Ah non. Ils sont interdits
interdits aux invalides.
Interdits aux invalides, voilà. C'est toute la cruauté du monde qui est contenue dans cette pièce-là. Mais et je pense que c'est le désir de Karl Kraus aussi, hein, d'utiliser l'humour pour justement provoquer. Enfin, il y a ce côté-là.
On finira sur ce beau plaidoyer de Marie-Josée Sirach pour les derniers jours de l'humanité. Je partage grandement quand même cette adaptation de Karl Kraus, mise en scène par David Lescaut. Pour vous faire une idée, vous allez au Théâtre du Vieux Colombier, ça dure jusqu'au 28 février.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Et avant de conclure cette émission, par un coup de fil passé à Lucie Berilovitch, le jeu de la dispute, en commençant par un retour sur le jeu de vendredi soir, Antoine Guillot.
Oui, que vous avez fait gagner des invitations pour le spectacle Richard III, mis en scène par Thomas Joly à l'Odéon Théâtre de l'Europe. On vous avait demandé où on a retrouvé en août 2012 le squelette de Richard III. C'était sous un parking de la ville de Leicester, en Angleterre.
À gagner ce soir, chanceux que vous êtes, des DVD de Cemetery of Splendor d'Apichat Pong Veracita Cool, c'est Pyramide qui distribue ce DVD. Comment le gagner?
Et en répondant à cette question et en nous disant comment sont soignés les militaires cataleptiques du film et les spectateurs avec eux.
Votre réponse, c'est que vos coordonnées postales sont envoyées à auditeurs@franceculture.radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute.
Hello.
Et ce soir, j'appelle la metteur en scène Lucie Berilovitch pour parler avec elle de sa mise en scène d'Antigone, après Sophocle et Brecht, à la Maison des Arts de Créteil du 4 au 6 février, un spectacle qui a été créé au Gulfest à Kiev en avril 2015, une production franco-ukrainienne interprétée notamment par les Dark Daughters, qui jouent le cœur dans Antigone et l'une d'elles le rôle d'Antigone. Il faut peut-être d'abord nous expliquer, Lucie Berilovitch, qui sont les Dark Daughters.
En fait, c'est donc une équipe de comédiennes, musiciennes, qui sont issues du Dar Théâtre, dirigé par Vlad Trotsky, qui est une des seules compagnies indépendantes d'Ukraine, que j'ai eu l'occasion de rencontrer par un voyage organisé par l'Institut français. Et en fait, elles ont créé, il y a à peu près 2 ans, une sorte de cabaret freak, punk, folklorique. C'est donc 6 femmes qui sont à la fois donc comédienne dans la troupe du Dark Théâtre et donc qui ont ce cabaret punk avec un spectacle à la fois des poèmes de Shakespeare, de Brodsky, de choses écrites par elles-mêmes.
Alors vous avez depuis longtemps, enfin on pourrait dire aussi génétiquement des attaches avec la Russie, mais vous avez aussi fait une partie de votre formation, une partie de votre travail, Lucie Berilovitch, et cette création elle est née avec ou à la suite de la révolution de Maïdan en Ukraine. Comment est-ce que vous avez vécu, vu, ressenti ce mouvement?
Moi, je suis allée pour la première fois à Kiev quelques mois après la révolution de Maïdan. Par contre, quelques mois après, il y avait encore tous les vestiges, les traces de cette révolution. C'est-à-dire que la place Maïdan, qui est un peu l'équivalent, par exemple, de la place de la République à Paris, était encore interdite aux voitures. Il y avait encore des sortes de logements de fortune pour des gens qui étaient restés y vivre. Il y avait de petits endroits de commémoration pour les jeunes qui étaient morts, avec des fleurs, des photos, des bougies, etc. Et donc, ça portait la trace, en fait, la mémoire des événements qui s'y étaient produits, avec en même temps la vie qui reprenait ses droits. Moi, ce que j'ai ressenti très fortement, c'était surtout la sensation d'un pays, ou en tout cas d'une ville, ou en tout cas d'une génération qui essayait de penser que par leur force, par leur volonté, reconstruire ensemble un futur était possible. Inventer un futur autrement, inventer une politique autrement, qu'à un moment donné, cette révolution qui était profondément pacifique au début, de dire ben non, nous ne voulons pas d'une politique de cette manière, nous ne voulons pas d'un président qui ne nous écoute pas, etc. Et comme une génération qui relèverait la tête, en fait, voilà. Qui aussi nous a amené assez naturellement à réfléchir ensemble à la thématique d'Antigone.
Alors Antigone se situe entre deux guerres, en tout cas à la fin d'une guerre, et on pressent qu'évidemment une nouvelle oui. suivra. Sur le programme, on voit Antigone d'après Sophocle. J'ai lu que vous êtes référé aussi à l'Antigone de Brecht, inspiré de la traduction d'Hölderlin. Qu'est-ce qui reste de l'Antigone mythologique dans votre spectacle ?
Beaucoup de choses. En fait, l'Antigone de Brecht, ce qui fait, comment dire, profondément sa différence, c'est qu'il fait venir un messager qui annonce réellement que la guerre revient et que la guerre est aux portes de Thèbes. Dans l'Antigone de Sophocle, c'est, comme vous le dites vous-même, une sorte de pressentiment. Pour moi, c'est ça la différence fondamentale. Les chœurs, en fait, ont été entièrement réécrits et retraduits par les Dards d'auteur. Ils ont fait une sorte de travail collectif avec l'équipe sur l'ukrainien et le russe, parce que c'est une pièce qui est en ukrainien et en russe, qui a ensuite été retraduite pour les sous-titres en français. Ce qui reste de l'Antigone de Sophocle, c'est, pour moi, j'ai l'impression que c'est une pièce qui est aiguisée comme une lame de couteau. Qu'il y a peu de temps pour la parole, que la parole est comme des actions, en fait, pour chacun des personnages. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé.
Et puis, il y a cette question qui traverse l'histoire de l'art et l'histoire tout court, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces morts ? Quelle réponse apporte ce spectacle ?
Pour moi, c'est une question qui s'est posée très forte lorsque j'étais à Kiev. Donc, je vous racontais ces sensations que j'ai eues de Maïdan. Et donc, en même temps, cette place, au moment où on était en avril, il faisait très beau. Et comme du coup, elle était interdite aux voitures, il y avait des gens qui venaient s'y promener avec des poussettes, etc., au milieu de ces petits, comment dire, hôtels de commémoration. C'est des questions qu'on s'est aussi posées après les événements à Paris. Et aussi, comment commémorer ça si on n'a pas les rites de la religion ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Si on prend par exemple juste la scène entre Antigone et Ismène, Antigone s'oppose à Ismène qui, elle, dit qu'à un moment donné, les larmes ne jaillissent pas des yeux éternellement, que le chagrin est compté, qu'il faut essayer de continuer à vivre. Pour moi, c'est vraiment la question, je me référerais vraiment à la première scène entre Antigone et Ismène. Pour Ismène, honorer ses morts, c'est continuer à vivre. Pour Antigone, honorer ses morts, c'est aller vers la mort avec eux.
Merci, Lucie Birevitch, pour ces quelques indications sur Antigone, qui sera représentée donc à la Maison des Arts de Créteil du 4 au 6 février, puis du 10 au 11 mai, au Théâtre de l'Union, Centre dramatique du Limousin. Merci. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Marie-Josée Sirache, René Solis, Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre très beau site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Siam Boutata, Daniel Fino, Antoine Guillot et Virginie Le Duo, qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. La prise de son était assurée ce soir par Jean-Guilain Meige, la réalisation signée Daniel Fino. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma en compagnie de Thierry Chaise et Julien Gester, à notre affiche Anomalisa de Charlie Kaufman, Mad Love in New York de Josh et Benny Safdie. Nous évoquerons aussi plus rapidement Steve Jobs de Danny Annie Boyle et Contre-pouvoir de Malik Bensmaïl. Nous retrouverons les choix de l'invité de la dispute Polylénaire. C'est une revue de presse culturelle signée Antoine Guillot. Il y aura bien sûr un nouveau cadeau à gagner avec le jeu de la dispute. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture dans quelques instants, le journal de la rédaction.